Bonjour à tous. Comme l'a annoncé Timothée il y a un instant, Audrey et moi sommes des amis de Camille et de Timothée depuis leur dernière année à Marseille, l'année où nous sommes arrivés à Marseille. Et donc, effectivement, je suis aussi professeur à la faculté Jean Calvin et je vous transmets les salutations de ceux de mes collègues qui vous connaissent parce qu'ils sont venus prêcher une fois ou deux chez vous. Alors ce matin, dans la liturgie, il a été question à certains moments de souffrance et d'un chemin qui était celui du chrétien, des chrétiens, on va dire d'une manière générale, sans que ça s'applique nécessairement à chaque instant de notre vie, mais un chemin qui est étroit et qui parfois est difficile à vivre. Et je vous propose pour ce matin de nous arrêter quelques minutes au milieu de la première épître de Pierre, pour considérer la seconde moitié de son troisième chapitre. Donc 1 Pierre 3, et puis on va commencer à lire à partir du verset 13 et on ira jusqu'au verset 22. Alors dans cette section, il est question de la manière dont l'apôtre exhorte ses destinataires à vivre chrétiennement, même lorsqu'ils sont persécutés pour leur foi. Il les prépare ainsi à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et même si notre situation aujourd'hui en Occident est plus facile à vivre que celle de beaucoup de nos frères dans la foi qui nous ont précédés dans l'histoire, et aussi d'autres encore qui aujourd'hui souffrent, parfois jusqu'au martyre dans d'autres endroits du monde, pour le seul fait de confesser Jésus-Christ comme le Seigneur de l'histoire, comme le Seigneur de toute la terre, eh bien, il est juste et bon que nous nous préparions, nous aussi, parce que l'Écriture sainte est donnée aussi pour nous, eh bien que nous nous préparions à vivre ce genre de choses lorsqu'elles arriveront, elles aussi, en France, si jamais elles arrivent de notre vivant. Et donc, je vous invite à lire en 1 Pierre 3, au verset 13 à 22. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, qui nous bénisse par elle. Alors dans les minutes qui viennent, je ne vais pas vraiment parcourir l'ensemble de ce texte. Il y a beaucoup de choses, et il y a aussi des choses très difficiles, très compliquées dans ce texte. Il y a même des problèmes de traduction dans lesquels on ne va pas rentrer. Ce n'est pas le sujet pour ce matin. Je vais surtout me concentrer sur les derniers versets, les versets 18 à 22. Et la raison est la suivante, l'opportunité pour moi de vous partager ces choses, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai participé à une pastorale à Marseille, durant laquelle je devais apporter la prédication. Celui qui organisait cette réunion m'avait suggéré, au milieu d'autres thèmes, il m'avait donné une série de thèmes différents, il m'avait proposé de traiter de ce que Jésus, comme c'est un peu la période dans l'année, de ce que Jésus avait fait entre sa mort, le vendredi saint, et sa résurrection, le dimanche de Pâques. S'il avait fait quelque chose de particulier, le samedi saint, lorsque son corps reposait inerte dans le tombeau. Alors, quel rapport avec notre texte me direz-vous ? Eh bien, nous lisons dans notre verset 19 que le Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Le Christ est allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce à quoi, nous disent certains, le Christ aurait consacré la journée qu'il avait libre entre sa crucifixion et sa résurrection. Super. Et donc, au verset 19, on a le fait qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Et aujourd'hui, il y a quelques livres qui sont sortis, alors pas encore en français, mais ça ne saurait pas forcément tarder, et qui expliquent, ben voilà, Jésus, le samedi saint, lorsqu'il était mort, il est descendu au séjour des morts, comme on l'a récité tout à l'heure, et il allait faire quelque chose de particulier. Il serait allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce à quoi, nous disent-ils, le Christ aurait consacré la journée qu'il avait de libre entre sa crucifixion et sa résurrection. Le vendredi saint, il était mis à mort sur la croix. Le dimanche de Pâques, il ressuscitait. Et entre les deux, nous dit-on, le samedi saint, il aurait fait un voyage au centre de la terre, au séjour des morts, pour, nous dit-on, proclamer sa victoire sur la mort, au séjour des morts, et pour libérer les âmes des saints de l'Ancien Testament qui y étaient enfermées, afin qu'elles puissent enfin aller au ciel, et ce donc avant même de vaincre effectivement la mort le dimanche de Pâques. Alors pour ce matin, je vous propose de considérer ce texte et de voir si c'est vraiment de cette manière qu'il faut comprendre la mystérieuse proclamation du Christ aux esprits en prison qu'évoque notre texte. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut penser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est allé parler aux fameux esprits en prison ? Alors, je vous propose d'en venir à notre texte et donc de regarder d'abord quelques éléments du contexte pour la première partie de cette prédication. L'apôtre, dans sa lettre à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, donc tout ça, c'est dans la Turquie actuelle, et c'est le premier verset de 1 Pierre qui nous donne la liste de ses destinataires. Donc l'apôtre Pierre voulait encourager des chrétiens qui souffraient de l'opposition de ceux qui rejetaient l'Évangile. C'est très net dans la section du texte que nous avons lu et sur laquelle on va passer très vite. Donc, au début du verset 14, voilà, il est question de souffrir pour la justice, qui doit paradoxalement être vécue par les chrétiens comme une béatitude. Heureux ceux qui souffrent ainsi. Vous reconnaissez un écho du sermon sur la montagne ici. À la fin du même verset, donc toujours au verset 14, il est question de n'avoir aucune crainte de ce qui les ferait souffrir et de ne pas en être troublé. Mais ça suggère qu'il y a des raisons quand même humainement de craindre et d'être troublé. Au verset 16, si on prend les versets suivants, il est question de ceux qui, je cite, « vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs ». Et encore, fin du verset, de ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, hein, qui se moquent de vous ou qui disent que vous faites le mal alors même que vous faites ce que les Écritures vous demandent de faire. Et l'apôtre conclut alors au verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc voilà, la vie chrétienne, c'est aussi cela parfois. C'est faire le bien et pourtant en souffrir, en étant décrié pour le bien qu'on fait, en étant calomnié pour les valeurs morales peut-être qu'on maintient, en souffrant pour la justice, parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Voilà donc l'enseignement par lequel l'apôtre Pierre veut préparer ses destinataires, veut les affermir, concernant ce qui pourrait bien leur arriver à tout moment. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mais bien sûr, un tel enseignement ne va pas de soi. Nous ne sommes pas faits pour souffrir en silence, sans broncher, comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Et donc, pour que les chrétiens, des gens comme vous et comme moi, auxquels Pierre s'adresse, puissent dans les faits mettre en pratique cet enseignement difficile et accepter de souffrir pour la justice, il va falloir que l'apôtre fournisse quelques bonnes raisons, quelques leviers de motivation pour qu'au moment critique, il vienne effectivement à mettre en pratique ce principe qu'il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Et donc la question qui se pose ce matin, c'est comment en arriver à l'acceptation d'un tel état de fait ? Comment accepter en tant que chrétien que la souffrance peut venir à tout moment dans notre vie, non seulement du fait des aléas de la vie, mais en particulier parce que nous confessons le nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous donne trois éléments de réponse qui fournissent autant de leviers de motivation pour souffrir de cette manière lorsque cela nous est imposé. C'est le deuxième temps de notre réflexion. Trois leviers de motivation pour supporter cette souffrance. La première raison, c'est que le Christ en est passé par là et que nous sommes ses disciples, ses élèves, ses imitateurs. Nous marchons à sa suite, versets 17 et 18, lorsque vous les lisez dans un seul souffle, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il faut que ces chrétiens se rappellent, il faut que nous, chrétiens, nous rappelions que lorsque nous souffrons injustement pour le bien que nous faisons, nous subissons en fait ce que le Christ a lui-même souffert. Il n'avait rien mérité de tel, et pourtant il a souffert de cette manière. Et les disciples, vous le savez, ne sont pas plus grands que le Maître, ils doivent donc s'attendre à souffrir eux aussi à sa suite, de cette manière. C'est la première raison, la première chose qu'on peut se dire avant pour se préparer à des souffrances qui pourraient arriver. Christ aussi en est passé par là. Il nous faudra donc le suivre aussi ici. Vous vous rappelez peut-être aussi de la manière dont Paul et Barnabas affermissaient ces mêmes églises de Galatie, par la deuxième fois où ils y passèrent, en leur disant « c'est par de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux ». C'est aussi ça, c'est pas seulement cela, mais c'est aussi cela, la vie de disciple de Jésus-Christ. La deuxième raison, le deuxième levier de motivation pour supporter la souffrance injuste, c'est que si le Christ en est passé par là, c'est pour nous tirer d'affaire. Donc, il n'y a pas seulement une symétrie, il est notre maître, nous le suivons, donc il a vécu certaines choses, on doit aussi vivre les mêmes choses. Mais il y a aussi une dissymétrie. Ce n'est pas parce qu'on est des petits Jésus qui sommes des êtres parfaits. C'est lui-même, il y a une dissymétrie, lui nous a sauvés, nous sommes injustes. Lui était vraiment juste et ne méritait pas de souffrir. Nous, c'est vrai que toutes les souffrances qu'on va vivre, elles ne sont pas toutes justes dans le sens où j'ai fait une mauvaise chose, donc je reçois une mauvaise chose qui va avec, comme une punition qui est complètement corrélée. Mais dans l'absolu, nous sommes mauvais, nous sommes injustes. Nous sommes comme ces Galiléens qui étaient dans cette tour qui s'est effondrée et à propos duquel Jésus a dit « Êtes-vous meilleurs que ceux-ci qui étaient mauvais ?» Non. Ils sont morts, ils étaient mauvais, mais vous êtes mauvais aussi. Ça aurait pu vous arriver. Et quelque part, vous avez de la chance si ça ne vous est pas encore arrivé. Et Jésus, lui, a souffert alors qu'il était parfaitement juste, mais lui, le juste, pour nous, les injustes. Et ça, c'est le deuxième élément qu'on doit considérer. Si nos souffrances ressemblent à celles du Christ d'un côté, de l'autre côté, elles sont sans commune mesure et le but poursuivi n'est pas le même. Pour lui, il s'agissait de nous tirer d'affaire, de nous apporter le salut, lui le juste, pour les injustes que nous sommes. Lui a souffert une fois pour toutes, lui a porté le péché du monde. Mais nous, nous sommes des injustes. Et donc, même si parfois nous souffrons injustement, c'est-à-dire alors même que nous avons fait Nous avons essayé de faire du bien autour de nous. Eh bien, nous savons en même temps que nous sommes des pécheurs qui ne méritons que la colère de Dieu. Alors qu'en même temps, nous savons qu'il nous a suprêmement aimés en Jésus-Christ. Et donc, ce contraste entre sa souffrance et la nôtre à sa suite doit aussi nous aider à remettre les choses en perspective. Nous sommes des pécheurs qui ne nous tenons devant Dieu que par sa seule grâce. Et lorsqu'il nous fait la grâce de souffrir pour lui, tout à l'heure on a chanté « pour communier à ses souffrances », eh bien c'est dans le contexte d'un salut qu'il nous a déjà apporté, nous sommes déjà sauvés. Et la souffrance qui arrive, ce n'est pas une souffrance qui va racheter le monde, ce n'est pas une souffrance qui va servir aux autres en tant que tel, c'est une souffrance qui va servir à nous rendre conformes à lui. Dans la mort, disait le chant tout à l'heure, hein, rends-nous conformes à toi. C'est la deuxième raison pour laquelle nous pouvons accepter qu'une souffrance injuste advienne dans notre vie, c'est en nous rappelant que nous sommes nous-mêmes des injustes que le seul juste a déjà sauvés. Et puis la troisième raison vient dans le troisième membre du verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, donc c'est la première raison, lui juste pour des injustes, deuxième raison, afin, troisième raison, de nous amener à Dieu. Le salut apporté par Jésus-Christ n'est pas uniquement de l'ordre du passé. Il y a aussi une visée en cours d'accomplissement qui doit encore s'accomplir pleinement à chaque instant de notre vie et ultimement lorsque nous serons morts et puis lorsque nous ressusciterons. Si Jésus lui-même a souffert, nous dit notre texte, c'est afin de nous amener à Dieu. C'est la finalité de son œuvre en notre faveur. C'est pour cette raison qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a souffert, pour nous amener à Dieu, pour rétablir la communion entre nous et son Père, pour que nous puissions vivre ainsi la vie heureuse de communion avec Dieu à laquelle l'humanité était destinée avant l'irruption du péché. Et c'est alors que se pose implicitement la question à laquelle l'apôtre répond finalement dans ce passage. Comment, de quelle manière précisément le Christ s'y prend-il pour nous amener à Dieu, nous les pécheurs, pour nous conduire à lui? Comment des pécheurs peuvent-ils être amenés à Dieu? Qu'a-t-il fait précisément pour que cela soit possible? Eh bien, notre texte détaille en trois étapes le contenu essentiel du chemin par lequel le Christ est passé pour nous amener à Dieu, pour nous conduire à lui. Ce sera le troisième temps de notre réflexion ce matin. Un chemin en trois étapes que le texte grec met en évidence de manière frappante en employant trois formes verbales successives identiques. Pour ceux qui s'intéressent, si jamais il y en a un ici, ce sont trois participes aoristes passifs consécutifs qui se suivent et que je vous ai soulignés sur le texte ici. Et la meilleure manière de le faire, je vais juste reprendre la traduction ici pour vous montrer la manière dont fonctionne le texte. Donc on a trois des étapes. Premièrement, grand A, « ayant été mis à mort quant à la chair ». Deuxième étape, « mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit ». Et troisième étape, pour traduire avec la même formule, on pourrait traduire « dans lequel, étant allé, s'en étant allé, il a prêché aux esprits en prison ». Donc là, vous avez trois étapes, trois moments qui sont bien soulignés en grec dans le texte. Lorsqu'il a été mis à mort, lorsqu'il a été rendu vivant, et lorsqu'il est allé, lorsqu'il s'en est allé, et pour quoi faire? Pour prêcher aux esprits en prison. Il y a donc trois étapes de son chemin pour nous conduire, nous des pécheurs, jusqu'au Dieu saint, juste et bon. Il fallait donc d'abord, première étape, qu'il vienne et qu'il meure pour nous. C'est ce que nous prêchons, peut-être chaque dimanche, à chaque fois que nous prêchons la croix, cette mise à mort quant à la chair du verset 18. Il fallait ensuite, deuxième étape, une fois mort, qu'il montre qu'il n'avait pas été terrassé par la mort. C'est la résurrection dont notre texte parle avec le langage de la vivification par l'esprit. Il fallait enfin, troisième étape, une fois ressuscité d'entre les morts, qu'il tire profit de sa grande victoire sur le péché et sur la mort et faire savoir au monde entier, et en particulier, nous dit ce texte, aux puissances spirituelles mauvaises qui tiennent les êtres humains dans la crainte de la mort en les accusant de tous les nombreux péchés qu'ils commettent quotidiennement, eh bien qu'en fait, même si nous sommes des pécheurs de la sorte, eh bien qu'ils n'ont plus rien contre nous. Ils n'ont plus rien contre nous parce que lui a payé le prix et lui a vaincu la mort. Et donc, même si formellement nous avons des péchés qui nous accusent, eh bien, ils ont été ôtés. Et donc, les puissances mauvaises n'ont plus rien contre nous. Vous retrouvez là l'idée énoncée aussi par Paul en Colossiens 2, au verset 13 à 15, que vous avez à l'écran. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, hein, c'est toute la liste des péchés qu'on commet, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé ainsi les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ce dont il s'agit ici, les puissances, les dominations et les autorités, ce sont des puissances célestes mauvaises qui veulent nous faire condamner à cause de nos péchés. L'apôtre Paul indique que la croix de Jésus-Christ, est la source de cette victoire sur ses dominations et autorités. Celles-ci, ces anges mauvais, croyaient tenir quelque chose contre nous pour nous accuser et nous faire condamner par Dieu devant son tribunal. Ils voulaient nous accuser en raison de toutes nos fautes. Mais la dette qui était la nôtre, les choses que nous avons faites, ont été mises par avance sur ce spirituellement, hein, sur un document, et ont été cloués sur la croix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en mourant pour nous, a payé tout cela. Et ce que Pierre précise ici, c'est que si le principe de l'effacement de notre dette a bien eu lieu à la croix, eh bien la proclamation, la manifestation de cet effacement de dette aux dominations et aux autorités, aux puissances spirituelles mauvaises, a eu lieu après la résurrection. C'est ce que semble indiquer la séquence des trois participes dans notre texte, ayant été mis à mort, première étape, quant à la chair, deuxièmement, ayant été vivifié quant à l'esprit, c'est-à-dire ressuscité, et troisièmement, étant allé faire la proclamation aux esprits en prison. Donc vous avez trois étapes, mise à mort, vivifié quant à l'esprit, s'en étant allé pour faire la proclamation aux esprits en prison. Alors là, on tombe sur un souci de compréhension, parce qu'il est vrai que l'identification des esprits en prison n'est pas claire. De qui s'agit-il ? S'agit-il d'êtres humains, rebelles à Dieu, déjà morts ? Et donc, ce sont des esprits en prison parce qu'ils n'ont plus leur corps, ce sont des esprits. Ils sont en prison parce qu'ils attendent le jugement. On peut penser par exemple à l'homme riche qui est transporté dans un lieu de tourment, alors que le pauvre Lazare, lui, est transporté dans le sein d'Abraham. Donc, l'homme riche pourrait être considéré comme un esprit. L'homme riche, une fois mort, pourrait être considéré comme un esprit en prison. Donc, s'agit-il d'êtres humains qui sont déjà morts et qui sont voués à être condamnés ? Ou s'agit-il d'êtres angéliques déchus, auxquels l'expression « esprit en prison » peut aussi convenir ? Et vous vous rappelez, il y avait ces démons qui demandait à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abysse avant le temps. Et de Pierre parle aussi de certains anges, pas tous les anges, mais certains anges mauvais qui sont enchaînés dans les ténèbres. Donc, esprit en prison, ça peut aussi convenir à eux. Alors, la question n'est pas facile à trancher à la seule lumière des versets 19 et 20, qui sont des versets très, très difficiles et que je ne vais même pas tenter d'expliquer en tant que tel. Mais ce qui me paraît décisif pour comprendre ce qu'on a ici dans notre verset 19, c'est la manière dont le verset 22 fait écho au verset 19. Parce que si vous regardez le verset 22, eh bien vous avez je voulais souligner, vous avez « il est allé au ciel », et ça c'est la même chose qu'au verset 19, où il est écrit « il est allé », c'est le même verbe, la même forme. La seule chose qui est indiquée en plus, c'est que c'est « au ciel ». Donc, verset 19, dans lequel aussi, s'en étant allé, il a prêché aux esprits en prison. Et verset 22, qui est à la droite de Dieu, depuis que, s'en étant allé, il est au ciel et que les anges, les autorités, les puissances, lui ont été soumis. Vous voyez, il y a un balancement ici dans le texte. C'est le même verbe avec exactement la même forme verbale qui est à nouveau employée ici. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Je ne le pense pas. Pierre s'attarde en fait dans les versets 22 sur la manière dont le Christ proclame sa victoire, dont il énonce, manifeste, démontre sa victoire éclatante sur les puissances qui autrement seraient susceptibles de nous oppresser et de nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Alors, pour de vrai, les esprits mauvais continuent à vouloir nous culpabiliser. Lorsque nous péchons, le diable et ses anges viennent d'une certaine manière à nous pour nous dire « Tu es tellement mauvais, Dieu ne peut plus t'aimer ». Et puis même si Jésus est mort sur la croix pour toi, mais n'as-tu pas commis un péché impardonnable? N'as-tu pas péché un péché volontaire? Et cette fois, Dieu ne pourra plus te pardonner. Ils essayent de nous culpabiliser, ils essayent de le faire, mais en vérité, donc ça, ils viennent à nous subjectivement, mais objectivement, ils n'ont plus de pouvoir parce que le poids de nos péchés a été porté par le Christ, ça a été cloué à la croix et ça a été effacé. Donc, ils peuvent essayer de nous oppresser en nous attaquant à l'intérieur de nous et essayer ici de briser ou en tout cas de mettre une distance entre nous et Dieu. Mais ils ne peuvent pas y arriver du côté de la vérité. Il n'en est pas ainsi. Le Christ fait taire ces puissances mauvaises. Elles ne peuvent plus nous accuser devant Dieu parce que Jésus-Christ est désormais notre intercesseur à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et cela oriente donc vers le fait que cette proclamation du Christ aux esprits en prison, du verset 19, correspond au moment où, au verset 22, il monte au ciel à la droite de Dieu pour se soumettre les anges, les autorités et les puissances. Alors, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que ce ne sont pas deux moments différents au verset 19 et au verset 22. Au verset 19, lorsque Christ s'en va pour prêcher aux esprits en prison, eh bien, c'est parallèle, c'est la même chose, c'est le même moment que lorsqu'il monte au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père pour se soumettre les autorités et les dominations. Il est possible que le passage soit en fait construit sur un parallélisme. En effet, vous voyez non seulement que s'en est allé et répété au verset 19 et 22, mais aussi que juste avant la deuxième mention d'un voyage du Christ, au ciel donc, il est question de sa résurrection à la fin du verset 21, comme il était question de sa vivification par l'Esprit fin du verset 18, c'est-à-dire de sa résurrection. Alors, de là à penser que toute la section sur le baptême, qu'on ne va pas creuser ce matin, mais qui précède la résurrection et l'ascension, a un rapport avec la mort du Christ, qui précède au verset 18 la première mention de la résurrection et du voyage du Christ, il n'y a qu'un petit pas, surtout lorsqu'on sait que d'autres auteurs bibliques comme Paul, dans l'Épître aux Romains, fait le lien entre le thème du baptême et le thème de la mort de Jésus. Et c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est, si on reprend, si on récapitule, au verset 18 et verset 19, vous avez trois étapes. Ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été revivifié quant à l'esprit, et s'en étant allé pour prêcher aux esprits en prison. Donc trois étapes, et je vous propose de voir trois autres étapes qui reprennent les mêmes étapes. On reprend au début avec le thème du baptême, qui est en fait un baptême dans la mort de Jésus, qui est efficace à cause de la résurrection de Jésus, et depuis qu'il s'en est allé au ciel, eh bien, il s'est soumis les autorités et les puissances spirituelles. Donc on a une structure en parallélisme, ABC, A', B', C'. Et donc la proposition que je formule, c'est que la prédication par le Christ aux esprits en prison du verset 19, c'est quelque chose qui a lieu non pas avant la résurrection du Christ, mais au moment de son ascension corporelle. Il monte avec son corps dans le ciel de Dieu, et à ce moment-là, eh bien, il annonce aux esprits mauvais ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils pensaient qu'ils allaient triompher du Fils de Dieu en le faisant mourir. Eh bien, il est mort. Il est resté dans la tombe, il est ressuscité, il monte au ciel, et tout ce qu'il a fait, eh bien, c'est utile pour chasser, on va le voir dans un instant, les mauvais anges du ciel. Alors, il y a une objection importante à cette lecture. Comment penser que la proclamation du Christ aux esprits en prison peut avoir lieu au ciel? Puisque si ces esprits sont en prison, Cette prison, on l'imagine plutôt sous la terre qu'au ciel, hein, dans le langage métaphorique qu'on doit employer. Alors c'est là où les limites de notre imagination et même du langage humain pour parler des choses spirituelles deviennent brusquement tangibles. Une chose est sûre, c'est que les auteurs bibliques n'ont pas de peine à situer les anges mauvais, eux aussi, au ciel. Prenez par exemple Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où sont-ils? Sous la terre? En enfer? Non, dans les lieux célestes. N'est-ce pas un peu étonnant? Les princes de ce monde, les princes ténébreux de ce monde, les esprits méchants sont dans les lieux célestes. Mais surtout, considérez Apocalypse 12. Que se passe-t-il? Donc, c'est un passage qui récapitule, quelque part, qui parcourt l'histoire depuis la naissance de Jésus. Hein. Que se passe-t-il juste après que l'enfant Jésus fut enlevé vers Dieu? Donc, l'enfant, ici, au verset 5, est enlevé vers Dieu et vers son trône, et ça, c'est l'ascension. Eh bien, réponse au verset. Donc, il y a un récapitulatif dans le début d'Apocalypse 12 qui parle de la venue de Jésus. Et ensuite, il monte au ciel au verset 5. Et que se passe-t-il juste après? Réponse 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, c'est du passé, devant notre Dieu jour et nuit. Eh bien, ce que je vous propose de voir, c'est donc que ce dont parle Pierre dans notre texte, c'est ce dont parle Jean en Apocalypse 12. Une fois Jésus mort et ressuscité, ce dont Jean ne parle même pas, lui, il va directement de la naissance de Jésus à son ascension. Il fait un raccourci, il prend les 30 ans de la vie de Jésus, les 33 ans de la vie de Jésus, et il passe directement de la naissance à l'ascension. Et une fois qu'il est monté au ciel, eh bien, il monte pour s'asseoir à la droite de Dieu lors de l'ascension, et il fait valoir les droits qu'il a obtenus par sa mort à la croix. Et s'ensuit alors l'éviction du diable. Alors je vous rassure, hein, Jean n'ignore pas la mort et la résurrection de Jésus. Si vous connaissez l'Apocalypse, vous savez que l'agneau qui apparaît devant le trône en Apocalypse 4 et 5, eh bien, c'est un agneau qui visiblement a été mort et qui est ressuscité. Et que se passe-t-il donc lorsque l'agneau, ou en tout cas l'enfant ici, monte au ciel? Eh bien, s'ensuit l'éviction du diable du ciel, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et le dragon et ses anges sont précipités sur la terre. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, dans la vision de Jean, le diable est bien sûr toujours actif sur la terre. Et c'est pour ça qu'il peut nous culpabiliser. Il peut essayer de nous faire perdre espoir. Il peut essayer de nous désespérer. Mais il n'a plus de rôle de procurateur devant Dieu en disant, ces gens-là sont des pécheurs. Dieu, tu dois les condamner. Il a été expulsé. Il n'a plus ce rôle de procureur général qu'il avait, semble-t-il, auparavant, tel que le livre de Job semble le suggérer. Les anges, les autorités, les dominations du verset 22 qui veulent nous engloutir dans le déluge de la colère de Dieu contre nos péchés, eh bien, le Christ se les est soumis. Comment agissent-ils? Ils recourent non seulement au ressort retors de la tentation pour nous perdre, mais ils cherchent aussi à faire valoir contre nous les exigences de la loi morale. Mais voici, Christ est mort quant à la chair, revivifié quant à l'esprit. Et c'est alors qu'il est allé au ciel proclamer sa victoire et annoncer qu'il a accompli pour ceux qui lui appartiennent, pour vous et pour moi, les exigences de la loi et qu'il a subi à leur place la malédiction qui était méritée par nos péchés. Il a pris, autrement dit, sur lui les eaux du déluge du jugement de Dieu qui devait nous engloutir. Il a porté la malédiction que notre accusateur voudrait que nous portions nous-mêmes. Et Jésus est sorti victorieux de son combat spirituel avec le dragon, le serpent ancien. Et c'est pourquoi aucun ange de malheur ne pourra rien faire valoir contre ceux qui n'ont pas été engloutis dans leur baptême, ceux qui l'ont traversé sain et sauf, ceux qui manifesteront après leur baptême, qui sont effectivement unis à salut, au Sauveur pour toute leur vie et toute l'éternité. Et c'est là la conclusion à laquelle nous arrivons. Oui, la vie chrétienne peut être une vie où la souffrance advient par les aléas de la vie, mais aussi par le fait que nous revendiquons le nom de chrétien. Peut-être que ce n'est pas toujours facile. Moi, je me rappelle, lorsque je travaillais en banque, que ce n'était pas si évident de ça, le lundi matin, de dire ce qu'on avait fait le week-end. Un peu honteusement, j'ai déjà essayé honteusement de cacher que le dimanche matin, en fait, j'étais à l'église. Et si je n'avais rien fait d'autre du week-end que d'aller à l'église, je disais, je restais tranquillement chez moi. Ce n'est pas vrai, j'étais allé le dimanche matin à l'église, j'avais lu ma Bible, j'avais pris du temps pour lire ma Bible l'après-midi, mais ça ne paraissait pas trépidant par rapport aux amis qui avaient fait du parapente le week-end. Et puis surtout, est-ce que j'allais assumer d'être un chrétien évangélique au travail, pratiquant et qui croyait des choses comme Jésus qui est mort et Jésus qui est ressuscité et Jésus qui allait proclamer sa victoire aux esprits mauvais? Ce n'était pas sûr, ce n'était pas facile à assumer. Et pourtant, ça doit faire partie de notre vie, d'être prêt, au moment où ça arrivera, de souffrir pour notre foi s'il le faut. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir à notre texte et nous rappeler ces choses. Jésus est mort pour moi. Jésus est ressuscité pour moi. Et Jésus est même monté au ciel pour être mon intercesseur devant Dieu et dire que toutes les choses qui peuvent m'accuser, que les esprits mauvais avant pouvaient solliciter contre moi, eh bien, elles n'ont plus lieu d'être. Ce n'est plus des choses qui légalement sont valables, ont une valeur devant le tribunal de Dieu. Mort et ressuscité, verset 18, le Christ exalté et victorieux, verset 19 et 22, est celui qui conduira ses élus à Dieu. D'après ce que nous en dit le verset 18, il nous amène, il nous conduit à Dieu. C'est à ce thème de la victoire du Christ que Pierre a recours pour encourager ses destinataires à persévérer dans l'épreuve de leur foi. Oui, nous sommes faibles parfois, mais Christ est passé devant nous et lui aussi a connu la souffrance. Et il s'en est relevé et il est monté au ciel. Et nous n'avons pas la force, nous n'avons pas le pouvoir de donner notre vie et de la reprendre. Mais le Christ est celui qui a fait le chemin pour nous et parce qu'il l'a fait, il nous amène à Dieu. Quoi qu'il en coûte, puisque Christ est victorieux, sa volonté s'accomplira nécessairement. Il ne faut donc ni craindre ni être troublé, comme l'annonçait déjà le verset 14, mais garder au cœur de nos vies cette espérance qui est la nôtre et qui est tellement certaine que nous pouvons être prêts à toujours en rendre compte, d'après ce qu'avait déjà annoncé le verset 15, même si parfois ce témoignage chrétien impliquera pour nous une souffrance foncièrement injuste, comme nous prépare l'apôtre Pierre au verset 14, au verset 17. Mais il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Alors, haut les cœurs, reprenons courage si nous sommes abattus, si nous sommes déprimés, si nous sommes peut-être désespérés, en considérant tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous conduire à Dieu. Il ne manquera pas de nous amener à bon port. Je vous invite à conclure par la prière. Notre Dieu, notre Père et notre Sauveur, nous avons confessé tout à l'heure que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est descendu au séjour des morts, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts, puis qu'il est monté au ciel. Et Seigneur, comme ça peut nous arriver de chanter des chants de souffrance sans que ça corresponde à la réalité de nos vies, ou peut-être sans même que nous pensions aux paroles que nous disons, peut-être aussi nous pouvons réciter le credo des apôtres ou d'autres textes similaires, simplement parce qu'on les connaît de manière automatique, sans voir ce qu'il y a derrière. Mais Seigneur, lorsque nous disons que tu es mort et que tu es descendu au séjour des morts et que tu es ressuscité et monté au ciel, eh bien nous disons aussi que tu as souffert pour nous, que tu as pris sur toi la condamnation qui était la nôtre et que tu en as souffert le prix. Mais toi qui avais le pouvoir de donner ta vie, tu avais aussi le pouvoir de la reprendre et tu pouvais nous conduire avec toi jusqu'au ciel. Alors lorsque nous aussi nous sommes au plus bas dans notre vie, nous voulons te demander de nous aider à lever les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours, parce que toi tu es passé déjà par les régions inférieures de la terre et tu es remonté au ciel. Et c'est la promesse que nous y allons aussi. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes de contempler cette vérité, de voir cela, en particulier dans les moments difficiles de notre vie. Nous te remercions parce que tu nous as donné un esprit de consolation, un esprit qui nous permet de regarder à Jésus-Christ et d'être rempli de cette espérance qui doit être la nôtre et pour laquelle nous voulons nous préparer à rendre compte lorsqu'on nous le demande. Toutes ces choses, nous te les demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Amen.